comme pour un acteur, c'est la personnalité. Sa présence.
Je vous répondrai non, ça serait de la bêtise.
Si tu veux être dans un de mes films, il faut que ça coule dans tes lèvres. Ok?
Ça peut couler, hein.
On en parle. Tout.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
C'est un fantasme de cinéphile, une salle de cinéma pleine de spectateurs. Ici à Lyon, eh bien, c'est une réalité. Toutes les séances affichent complet partout, dans toute la ville, pour cette 14e édition du Festival Lumière. Nous sommes en direct depuis le hangar du premier film. Bonjour aux spectateurs lyonnais avec nous ce matin. Bonjour à tous les autres et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue ici et ailleurs.
Des séances cultes de Psychose à Interstellar, les 40 ans de Reds, restaurés de Warren Beatty, Lee Chang-dong, André De Toth, Nicole Garcia, autant d'hommages et des rétrospectives notamment à Louis Malle et Sidney Lumet, entre autres événements et pour couronner le tout, le prix Lumière, décerné hier soir au plus inventif des enfants du cinéma contemporain, Tim Burton. Il sera avec nous tout à l'heure, mais c'est avec elle que nous ouvrons cette heure. Bonjour Monica Bellucci.
Bonjour.
La brune c'est vous, la blonde c'est elle, Anita Ekberg. Le feu, la glace, deux parcours parallèles. Dans ce film intriguant, The Girl in the Fountain, d'Anton Giulio Panizzi, présenté ici à Lyon. C'est parti.
France Inter. On aura tout vu. Christine Masson et Laurent Delmas.
Magello, where are you? My goodness! Magello, come here! Hurry up!
La Dolce Vita, Federico Fellini et cette scène pour toujours mythique du bain dans la fontaine de Trevi à Rome, la robe noire, la chevelure blonde, Anita Ekberg, splendide, appelle Mastroianni. Mais derrière cette scène, Monica Bellucci, il y a une actrice à la vie chaotique et consumée par sa propre icône, non ?
Bah oui, en effet, ce film parle de deux systèmes différents. Les star systems de l'époque après-guerre en Italie et les star systems d'aujourd'hui. Du coup, même comme elle était considérée la femme à l'époque et la femme aujourd'hui. Parce que Anita Ekberg, quand elle est arrivée en Italie dans les années 50, elle était déjà une star internationale en quelque sorte. Elle avait eu un Golden Globe en Amérique comme jeune star de l'année. Et c'était une époque où d'un coup, quand cette femme arrivait en Italie, c'était comme une tornade, parce que cette bombe sensuelle, blonde, arrivait dans un moment où les femmes encore en Italie, elles pouvaient pas, elles sortaient pas encore de l'ambiance domestique, de la cuisine et de la maison. Et cette femme arrive avec sa voiture décapotable, sa maison qu'elle avait achetée toute seule, magnifique. Et du coup, elle est vraiment une femme qui raconte un contraste total de mentalité. Elle est arrivée en Italie pour vraiment comme si elle a cassé des codes qui existaient jusqu'à ce moment-là. Du coup, en quelque sorte, même une figure si qui attirait beaucoup de curiosité, mais aussi dangereuse.
Et Anton Giulio Panizzi vous propose ce projet fou, donc, dans The Girl in the Fountain. Il vous propose à vous, la méditerranéenne, d'incarner cette créature nordique. C'est quoi votre première réaction ?
J'étais très étonnée, dans le sens que je dis, mais qu'est-ce que je fais là ? Excuse-moi, elle est très nordique, moi très méditerranéenne, elle est tellement grande, blonde, yeux bleus. Et après, les moments où j'ai accepté, j'ai regardé ces films, bien sûr, j'y connaissais déjà quelques films. Alors, c'était La Dolce Vita, c'était Boccaccio 70, Intervista, qui sont les films de Fellini, et après d'autres films comme Guerre et Paix, et d'autres films où il avait des petits rôles et des interviews. Et dans les films, on me voit les films documentaires d'Antonio Giulio Panizzi, on me voit regarder ce moment-là. Et du coup, à travers mes yeux, les publics, en quelque sorte, peuvent connaître qui était cette femme et aussi cet artiste.
Et on vous demande d'être actrice sur une actrice, en fait, et de remettre des perruques et de vous déguiser et de parler comme elle et d'avoir la même gestuelle.
Voilà. Du coup, les films, c'est un peu comme une masterclass. Oui. On voit la préparation d'une actrice pour entrer dans un rôle. Du coup, on me voit que je suis en train de discuter les rôles avec les metteurs en scène, que je travaille avec ma coach pour apprendre comment bouger, et surtout, et très important aussi, toute la transformation physique avec l'aide de ma maquilleuse et de mon coiffeur pour arriver à être Anita Ekberg.
Vous vous rappelez quand vous avez vu pour la première fois la Dolce Vita?
Ben oui, je me rappelle, bien sûr. C'est un de mes films, un des films que j'adore le plus. Et c'est un moment onirique, ce film. Et un moment onirique. Et Fellini avait cette capacité de raconter la réalité à travers les rêves. Et d'ailleurs, les rêves étaient un de ses thèmes récurrents, parce qu'il disait que les rêves, c'était les travails nocturnes. Mmh. Et il faisait toujours beaucoup de dessins, il dessinait tout, et beaucoup de films étaient tirés de ses rêves.
Et d'ailleurs, la scène de La Fontaine a été inspirée par Anita Ekberg, qui un soir, elle-même, s'est baignée dans cette fontaine.
Mais je crois qu'entre eux, il y avait quelque chose, il y avait une énergie incroyable qui passait entre eux. Parce que quand on regarde, même, ok, la Dolce Vita, magnifique, mais dans Boccaccio, cette tante, elle était quand même aussi incroyable. Et on voit que, elle avait aussi beaucoup de talent, mais cette beauté mangeait même son talent. Parce que, en quelque sorte, elle était tellement, larger than life, comme on dit.
Plus grande que la vie.
Voilà, plus grande que la vie. Et elle avait cette image qui arrivait avant elle. Et du coup, quand Antonio Panizzi m'a proposé ce film, je dis, ok, encore la femme objet, la beauté, toujours la même histoire. Okay. Mais en même temps, je me suis dit que je pouvais comprendre, parce que quand j'ai commencé le métier de comédienne, j'arrivais de la mode, du coup, il y avait pour moi aussi cette sorte de d'image qui mangeait un
de
peu
cliché.
La personne au début, et après petit à petit voilà, je suis arrivée à transformer, mais je peux comprendre que c'était compliqué pour elle. Elle portait quelque chose qui était énorme.
Est-ce qu'on peut dire que cette scène culte l'a révélée et l'a emprisonnée en même temps?
Oui, c'est vrai. On dit qu'elle est rentrée dans la fontaine et elle n'est jamais sortie. Mais dans le sens que cette image, en même temps, des fois on fait tellement de films, nous les comédiens, et il n'y a jamais un film dont on se rappelle. Du coup, je pense que quand on a un parcours des comédiennes, il y a un film qui te rend iconique. Et je pense que toutes les comédiennes et comédiens, malgré qu'ils ont fait beaucoup, beaucoup de films, il y a toujours deux, trois films pour lesquels on se rappelle de nous. Voilà. Du coup, cette femme, elle va rester quand même dans l'histoire du cinéma, quoi qu'il arrive.
Mais c'est pas un contre-modèle pour vous? C'est un modèle de ce qu'il faut pas faire, Anita Ekberg, aussi?
C'est un peu les deux, dans le sens que je pense que cette femme-là, elle nous a appris à devenir libres. Parce que elle a eu un courage de casser tous les codes de l'époque. Elle a eu le courage de partir de Suède. Elle était très jeune, aller à Los Angeles, rentrer dans le système américain, apprendre plusieurs langues. Elle était suédoise, elle a appris l'anglais super bien.
L'italien.
L'italien. Ouais. Voilà. Du coup, elle était vraiment une pionnière pour son époque. Après, je pense que sa beauté a été un Ferrari qu'elle n'a pas pu toujours conduire.
Elle a très mal terminé. Seule.
Mais c'est aussi une époque.
Oui.
C'est une époque aussi où, d'un coup, je pense qu'après un certain âge, c'était très compliqué de pouvoir continuer une carrière. C'est une époque où les femmes, même si, ou les actrices, même s'ils étaient très talentueuses et ils avaient du charme et tout, après 40 ans, c'était vraiment compliqué, même avant, de pouvoir continuer à travailler. Et je pense que, du coup, le système a fait si que, une fois que sa beauté biologique, était, disons, passée à autre chose, je pense que sa carrière n'a pas pu continuer.
Est-ce que vous imaginez qu'il y a une jeune actrice blonde italienne en ce moment qui un jour vous incarnera à l'écran?
Bah écoutez, non, mais moi je ne veux pas être une icône, moi je veux être une actrice et c'est tout, et basta. Parce que les icônes, c'est dangereux. Les icônes font penser à quelque chose qui est mutable, qui reste pareil. Moi, je ne vais pas m'arrêter dans une image. J'étais jeune, j'avais 20 ans, j'en avais 30. Aujourd'hui, je suis une femme mûre. Et voilà, et après, je serai une femme plus âgée. Et j'ai envie de voir les temps qui passent. Et ça, ça va être aussi à l'écran. Je ne vais pas être fixée sur une chose qui m'emprisonne.
Vous dites encore une femme belle qu'on me propose, mais vous avez réussi à complètement aller ailleurs, en fait, Monica Bellucci.
Mais parce qu'on me l'a proposé. Dans le sens que rien vient sans... Les choix, c'est facile à faire quand il a les propositions. Dans le sens, si Antonio Panizzi me propose de jouer Annie Tekberg ou Tom Wolfe me propose de faire Callas au théâtre et d'autres réalisateurs, autre chose, ça veut dire que d'un coup, les propositions arrivent et c'est sûr que moi, ça me donne envie.
Non, mais avec des vrais choix très audacieux, avec des auteurs français, par exemple Philippe Garrel, Bertrand Blier, Gaspard Noé, et puis à l'étranger, les Wachowski, Coppola, Kounen, Gans. C'est très, très éclectique.
Mais ben ça, ça vient pas de moi. Dans le sens que c'est des... Après, ce qu'on dégage et ce qu'on inspire, on sait pas. Moi, je réponds à des pulsions que m'arrivent de l'extérieur. Et mon métier me plaît aussi parce que c'est quelque chose que je peux pas prévoir à l'avance. Voilà, du coup, quand on me dit « Mais qu'est-ce que tu voudrais jouer ?» Je ne sais pas, parce que j'aime aussi quand ils arrivent, les réalisateurs, avec des projets dont je n'ai pas absolument pensé.
Vous êtes très burtonienne ce matin, tout en noir, comme ça.
Bah, je suis toujours en noir.
Et Burton, c'est un cinéma qui vous fait rêver?
Bah, ça me fait penser beaucoup à Fellini, en effet.
Ah oui.
Il dessine sans arrêt,
oui,
comme Fellini. Ce monde est très onirique et à travers ces métaphores, on comprend encore mieux la réalité.
Alice Rohrwacher, dans les Merveilles, vous offre presque un rôle fellinien. Vous êtes la fée.
La fée télévisuelle.
Oui.
La fée, eh ben, être une fée. Moi, ça me plaît d'être une fée. J'adore les enfants, du coup. Et je pense qu'on reste des enfants, en quelque sorte, et qu'on a besoin qu'une partie de nous reste enfant. Dans le sens que c'est à travers ça qu'on crée, je pense.
Comment va le cinéma italien, Monica?
Bah, écoutez. On a des grands metteurs en scène encore aujourd'hui, Sorrentino, Garrone, Alice Rohrwacher, bien sûr. Et après, bien sûr, économiquement, on n'a pas la même force de production que la France.
Vous avez beaucoup tourné là-bas. On n'a pas vu tous les films, hein, italiens.
Eh oui, parce que il y a eu ces moments magiques qu'on a eu dans le passé où tous les acteurs français travaillaient en Italie et les acteurs italiens travaillaient en France. Et là, c'est un peu plus compliqué.
Et à Rome, la ville célébrée dans ce film, vous avez beaucoup tourné à Rome.
Oui, j'ai tourné à Rome. Oui, et Rome, j'aime énormément, vraiment. En effet, j'ai vis entre Paris et Rome.
Vous auriez adoré tourner avec Fellini?
Si, je ne l'ai jamais connu. Jamais.
Notamment la Dolce Vita.
La Dolce Vita, mais c'est incroyable parce que dans une interview, Anita Ekberg, quand elle avait vieilli et la vie avait vraiment passé sur elle, elle a dit, je devrais tourner aujourd'hui la vie amère. C'est fou.
Ça s'appelle The Girl in the Fountain. Oui. Merci avec vous, Monica Bellucci.
Monica Bellucci. Merci,
merci
beaucoup.
Merci.
Merci. Merci.
On se retrouve après Lizzo Special.
Woke up this morning to somebody in a video talking about something I posted in a video. If it wasn't me, then would you even get offended? Or is it just because I'm black and heavy? Y'all don't hear me though. I've been the same since I've been dropping slow on Bissonnette. Call up anybody I know and they will tell you that fame is pretty new, but I've been used to people judging me. That's why I move the way I move and why I'm so in love with me. I'm used to feeling you believe you're special. Well, I will.
Nous sommes toujours en direct, bien sûr, du 14e Festival Lumière de Lyon. Merci, cher public lyonnais. Quand un cinéaste revient sur son enfance, James Gray, avec ce film Armageddon Time, qui raconte quelques mois de la vie de Paul Graff, un gamin juif de 11 ans qui va se lier d'amitié dans un collège public du Queens à New York avec un jeune noir, Jimmy. Un film sur l'Amérique de ces années-là, 1980, l'accession au pouvoir de Reagan, les débuts d'un néolibéralisme et pour ce jeune garçon, la prise de conscience du racisme et de l'antisémitisme. Le film le plus personnel et le plus lucide que j'ai pu faire, dit James Gray, un récit d'apprentissage très proche dans l'esprit des 400 coups de François Truffaut. Gray était à Lyon, nous l'avons rencontré, en voici un petit échantillon.
But you're not to associate with him again.
What do you mean? Why?
I think you know what I mean.
My parents are sending me to my brother's school.
That's heavy.
In this institution, you can be anything you want to be. It won't be because of a handout. It'll be because you earned your way there.
Someone's bugging you. What is it?
Sometimes kids say bad words about the black kids. Who's that? Somebody from my old school. Did they ever come to your house?
What do you do when that happens?
Obviously nothing, of course.
You think that's smart? You're gonna be a mensch, okay? Firm handshake. Okay, give me a hug.
I love 400 blows.
J'adore les 400 coups.
Everybody else I've ever talked to who's
tous les gens que je connais qui l'ont vu l'adorent eux aussi.
Oui, mais vous, vous l'avez fait.
Yeah. That's true. It's funny.
Oui, sans doute. C'est drôle, j'ai montré les 400 coups à mes enfants pendant le confinement, au début, le premier mois. Et ils ont adoré, y compris mon fils de 11 ans. Je crois qu'il n'avait jamais vu de film dans une autre langue que l'anglais, et il l'a adoré. Il y a quelque chose de très noble dans ce film, qui offre une place de héros mythique à un jeune garçon. C'est très beau. Et c'est ce que j'ai eu envie de m'approprier, vous avez raison, dans la scène en classe. J'ai eu envie de retrouver la noblesse de l'enfance.
Est-ce que ce film, Armageddon Time, agit comme une catharsis sur vous ?
Pas du tout. J'aimerais bien. J'ai encore en moi une blessure. Et je ne sais pas comment combler le vide, comment penser la plaie. La question reste ouverte, la situation n'est pas close et il n'y a pas d'issue. Aucune catharsis, donc, malheureusement. Ou heureusement, peut-être, ça me fait travailler.
Nous retrouverons James Gray dans quelques jours, plus en longueur, bien sûr. Laurent, en plus d'Armageddon Time, Lumière projetée ici, Little Odessa, La Nuit vous appartient, Two Lovers, The Lost City of Z, et partout, des personnages qui ne peuvent pas échapper à leur passé, des histoires teintées de culpabilité, un cinéma hanté par la figure du père.
Oui, 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 Mémoire de nos pères, ce pourrait être le sous-titre commun à la majorité, la grande majorité des films de James Gray, avec pour le dernier en date, vous le rappeliez, Armageddon Time, ce grand-père absolument craquant et qui vaut tous les pères du monde d'ailleurs. Cette thématique, Gray a le génie de la traiter de différentes façons. C'est même sa façon à lui d'explorer les genres cinématographiques les plus convenus. Quand il touche par exemple à la science-fiction avec le très mélancolique Ad Astra, c'est pour raconter l'histoire d'un fils à la recherche de son père, tout simplement. Et ce schéma s'inverse littéralement avec The Lost City of Z, qui est un peu ses aventuriers de l'Arche perdue à lui, hein, mais avec une tendance Apocalypse Now. Ben, c'est pareil, là aussi, la figure paternelle et filiale est au centre. Car pour Gray, le film d'avant passe par la famille avant tout aussi. Boudé par la critique et le public américain, Gray est en France chez lui. On l'adopte bien volontiers comme un cousin d'Amérique, car c'est peu dire que ses films nous parlent et nous bouleversent. On attend déjà le suivant avec impatience, mais pour l'heure, n'oubliez pas, c'est bientôt l'heure en salle de Armageddon Time.
Et c'est bientôt l'heure de l'arrivée de Tim Burton, donc on va aller très vite sur les deux cinéastes célébrés ici à Lyon, Louis Malle et Sidney Lumet, Laurent. Et redire qu'il y a une très belle version restaurée de Reds, de Warren Beatty.
Mais oui, bien sûr, le film qui a 40 ans, et qui sort ici en version restaurée, avec un film de 3 heures qui est une fresque incroyable, historique, très très belle.
Et maintenant, je vous propose d'accueillir Tim Burton.
Merci.
Mesdames et messieurs, merci d'accueillir le 14e prix Lumière, Tim Burton.
Honestly, in my whole life put together, I've never felt so much love as I hear tonight. I mean, yeah, honestly.
En toute ma vie, je n'ai jamais ressenti autant d'amour que ce soir.
Welcome to the best funeral I ever had. Thank you very much. Honestly, it's such an honor to be in the birthplace of cinema. I've got such an injection tonight just from Cherry and from everybody here. It's such a beautiful it's probably one of the most beautiful, simple, pure festivals I've ever been to, in the sense where it's all about the love and the joy of movies. So for me, this is like, honestly, like I said, I've never felt so much anything in one place before. And so I'm kind of speechless, but thank you so, so much. I'll never forget this. Thank you.
Tim Burton, director of Batman, Beetlejuice, and Edward Scissorhands, now takes you to a completely different world. The true story of a Hollywood legend, Ed Wood.
And action! Cut! That was perfect.
Perfect. Do you know anything about film production?
Well, I like to think so.
Hier soir, Tim Burton, vous avez, j'ai l'impression, physiquement ressenti l'impact de votre œuvre sur les spectateurs français.
Yeah, that's true. I mean, it's not something I think about.
Et c'est pas quelque chose dont auquel je pense. Je pensais pas vivre ça.
I was completely blown away.
Mais j'étais complètement soufflé, complètement ébahi.
Yeah, like I never felt that before.
J'avais jamais ressenti ça auparavant.
It was good for me to kind of re-inject and
c'était bien quelque part de retrouver mon enthousiasme,
joy for creating
ma joie pour la création,
movies, so,
pour les films.
Like a real adrenaline,
vraiment, c'était un choc d'adrénaline.
De grandes funérailles, vous avez dit.
Well, to see yourself, it's like your life passing.
De se voir soi-même, de voir votre vie qui défile devant vos yeux. Mais c'était une chouette funéraille.
Thierry Frémaux, sur l'ensemble des prix Lumière, j'ai l'impression que Tim Burton était très haut dans l'applaudimètre hier soir.
Oui.
Thierry Frémaux mange un croissant, c'est
oui,
pour ça.
Pardon,
je n'avais pas vu.
Très haut dans l'applaudimètre parce que très haut dans l'histoire du cinéma contemporain.
Oui.
Et avec quelque chose d'un supplément d'affection, quelque chose d'un retour. Au tout départ, d'ailleurs, le prix Lumière, c'était aussi pour ça, pour redire notre admiration à un artiste et le faire parce que peut-être qu'on l'avait pas fait assez. On l'a fait beaucoup pour Tim Burton dans les années 90-2000.
Oui.
Et puis on avait envie de le voir revenir et quand il a posé le pied à Lyon, j'ai été, moi, très heureux en ami, en affection de le retrouver et de le retrouver intact, en pleine forme.
Tim Burton, l'enfance, c'est la norme à Burbank, c'est le dessin et le cinéma qui vous sauvent comme une thérapie. Ce qui est drôle, c'est que pour vous, du coup, la fiction, à ce moment-là, c'est pour vous la vraie vie.
Well, as they say, you know, truth
comme on dit,
is stranger than fiction,
la vie est plus étrange que la fiction.
Fiction,
et moi, je voulais vraiment vivre dans la fiction, oui.
You know, I never understood the word
jamais
normal.
Je n'ai compris le mot normal.
Terrified of like normal things, like
les choses normales me terrifiaient.
School, or my
l'école,
parents, or
les parents,
my relatives. And so for me,
la famille.
Fantasy felt more real.
Et la réalité, quelque part, était moins intéressante. C'était vraiment
again,
la fiction qui était la vérité.
Therapeutically, helped me survive.
Et ça m'a aidé comme une thérapie, ça m'a aidé à survivre.
Est-ce que c'est vrai que votre père, les jours de pleine lune, se faisait passer pour un loup-garou?
Well, my father, he had his teeth knocked out. He had been a baseball player.
Avait perdu ses dents. Il avait joué au baseball.
So he was able to kind of
il était capable
get rid of his teeth
de défacer ses dents.
He had sort of kind of canine, so he turned into a
il n'avait du coup plus. On ne voyait que les canines. Et oui, devenait un loup-garou. Oui.
I can say now my father was a werewolf.
Et donc je peux vous dire que effectivement mon père était un loup-garou.
Mais est-ce que vous les nuits de la pleine lune vous vous faites passer pour le fils du loup-garou?
Of course.
Et c'est dans l'enfance qu'est née votre fascination pour les monstres, on le sait. Mais les monstres, deviennent vos amis parce que pour vous, ils vous rassurent.
Yes. Yeah, I mean, they were always perceived. See, monsters, if you look at most monster movies, they're not bad.
Quand on regarde tous les films sur les, avec des monstres, ils sont pas si méchants que ça. C'est des gens qui ont été mal compris. C'est des gens qui, quelque part, Frankenstein, King Kong. Dans l'histoire des monstres, l'émotion vient d'eux. Et on peut s'identifier à eux. Ils sont différents. Différents, mais pleins d'émotions dans le film. Voilà, c'est très simple. J'ai jamais vu comme des gens horribles. Je les ai vus comme des amis.
J'ai l'impression qu'on vous retrouve effectivement dans tous vos personnages. Ça peut être Pee-wee, Ed Wood, Edward, Charlie. Vous avez besoin d'y être, même à travers les émotions, mais vous êtes partout dans vos films.
You know, because for me, it's the most important thing.
Parce que pour moi, c'est le plus important. J'ai jamais été un bon communicateur. J'ai jamais été capable de parler clairement des choses. Pour moi, c'est très important de ressentir les choses. Et je fais partie, effectivement, de la photographie, du jeu des acteurs. Je m'implique, je suis dedans. Et j'y donne tous mes sentiments. C'est pour ça, pour moi, ma façon de communiquer.
Est-ce que la peur n'est pas l'émotion la plus jouissive à faire passer aux spectateurs?
What, fear?
Yes. Peur?
No, fear is, I don't know, that's a two-edged thing. I mean,
c'est quelque part une arme à double tranchant. J'ai pas vraiment peur comme ça, et je n'adore pas avoir peur.
You can't have fear, you have to kind of...
Je pense que quelque part... La passion, c'est mieux.
Fear sometimes stops
you. La peur, quelque part, ça vous bloque. Parfois.
Mais faire peur aux spectateurs, c'est une joie pour vous.
Toute ma vie, j'ai fait peur aux gens, même avant de faire du cinéma. C'est un truc commun, banal pour moi.
Qu'est-ce qui s'est passé entre vous et Danny Elfman? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ce duo devienne ce duo incroyable qu'on connaît? Sa musique est comme une voix intérieure de vos personnages.
Oui,
j'allais voir son groupe, il faisait de la musique, il chantait, il faisait des clubs. Et j'avais le sentiment que sa musique était très cinématographique. Il faisait de la pop, du punk plutôt. Et quand moi j'ai fait mon premier long métrage, Pee-wee, je lui ai demandé de faire la musique. C'était son premier film à lui. Et donc on a grandi dans le cinéma tous les deux ensemble, avec nos goûts aussi. Et j'ai réalisé mon premier film, et lui, tout d'un coup, il avait pour la première fois tout un orchestre. C'était beau, c'était surréaliste pour nous. Et donc, on a grandi, on a évolué ensemble dans le monde du cinéma.
Il apporte du relief à votre cinéma.
C'est comme un comédien. Il y a les comédiens à l'écran, et puis il y a la musique. Et tous ces éléments font que il est un acteur du film, aussi important que les comédiens, aussi important. Comme vous dites, c'est un personnage.
On vous a confié parfois beaucoup d'argent, des millions de dollars pour vos films, et vous êtes resté vous-même. On a l'impression que l'argent ne vous fait pas peur.
C'est abstrait l'argent pour moi. Les gens, je crois que les gens des fois se battent avec des petits budgets, et aussi ils se battent les réalisateurs quand ils ont de grands budgets. C'est une chose abstraite. Personne vous donne un sac d'argent et vous dit d'où. Comment le dépenser? Moi, je suis pas un businessman. Pour moi, c'est une donnée abstraite.
Pour le coup, on n'a pas peur quand on a des budgets énormes comme ça. En voyant d'où vous venez, des films que vous faisiez avant.
Oui, mais j'ai toujours eu un sens des responsabilités. Je suis pas de dépensier. J'ai voulu toujours respecter l'argent qu'on me confiait. Respecter le fait que ces gens essayent de le dépenser consciencieusement. J'ai pas voulu être frivole avec ça.
C'est ce que dit Spielberg, l'argent est là, il coule à flot, profitons-en.
Et puis quelque part, vous engagez, vous employez des gens.
structure to it, where
il y a une structure des choses.
Money,
vous avez, on vous donne de l'argent, mais il y a toute la production derrière tous ces gens, toute cette équipe.
Place,
vous tournez dans un endroit, il y a tout un groupe, il y a toute une troupe. Et quelque chose, c'est fluide entre nous.
Ed Wood, qui est un des films que vous préférez d'ailleurs, qui est une très très belle déclaration d'amour au cinéma. Ed Wood, c'est l'enthousiasme, c'est la confiance en soi, c'est n'avoir peur de rien. Est-ce que ce serait ça la définition d'un cinéaste?
Well, that's what I loved about him. And again,
et c'est ce que j'aimais justement chez lui. Et puis j'avais envie de montrer quelque part la frontière extrêmement tenue qui existe entre le bon cinéma et le mauvais. Mais j'aime son enthousiasme. Et c'était ça la clé. C'est là où se trouve la force, le moteur, la passion, l'enthousiasme. Et puis aussi se déguiser en femme, ça c'est super.
Il n'y a pas de politique dans vos films. Et pourtant, dans Mars Attacks, Jack Nicholson est à la fois président des États-Unis et un promoteur véreux. Est-ce que ce serait Trump avant Trump, ça?
Oui,
je suis voyant, je prédis les choses.
Non, mais c'est vrai que on peut dire que c'est une vision aussi politique de l'Amérique, parce que, à l'époque, l'Amérique vous décevait beaucoup.
Je me rappelle, à l'époque, j'avais des sentiments très, très mitigés sur l'Amérique. Des sentiments très contradictoires. C'était un pays extrêmement contradictoire. Il y avait des choses qui étaient perçues d'une façon et d'une autre. Et dans mon esprit, cette confusion, c'était intéressant aussi. Pour moi, les Martiens, c'était la façon de faire exploser totalement les choses.
Et votre principal ennemi à l'époque, c'était Independence Day, qui était un film beaucoup plus normé. Donc du coup, Mars Attack a moins marché. Comment vous vivez, Tim Burton, les échecs? Ce n'est pas un échec, mais comment vous vivez ça?
C'est drôle, parce que ça a été vraiment assez explosif en Amérique, ce film. C'était le premier film qui a eu le plus de succès dans les autres pays aux États-Unis. À cette époque, c'était vraiment à l'international. C'était le plus grand de mes succès, même plus que Batman. Donc c'est étrange. On ne peut pas vraiment juger les choses sur un succès ou un autre. Ed Wood, effectivement, c'est mon film préféré. Mais quelque part, c'est mon plus grand flop. Et ça a fait perdre de l'argent au studio. Mais c'est le film qui me rend le plus heureux, le plus passionné. Vous perdez des choses dans chaque projet, mais vous gagnez aussi quelque chose. C'est ça faire, c'est ça créer.
Ce qui est beau à la masterclass hier animée par Thierry Frémaux, on vous a demandé si vous rêviez de devenir cinéaste, d'être cinéaste. Et vous avez dit, je rêvais de faire. En fait, c'est ça, faire, créer.
Oui, c'est vrai. Comme la plupart des gamins, je faisais des films Super 8. J'aimais faire mes petits films dans mon coin, et j'aimais dessiner l'animation. Mais oui, c'est vrai, j'avais envie de fabriquer des choses, faire des choses. Et je fais toujours ça, encore.
Art shows and stuff,
toujours des petites expositions que je prépare.
So it's all, that's the key element.
C'est ça pour moi, la clé des choses, c'est toujours créer.
I mean, the best is movies, because
pour moi, le mieux c'est le cinéma, parce que j'ai grandi et c'est ma passion.
My interest,
et c'est mon premier intérêt. Et donc, j'ai eu la chance, la grande chance, de pouvoir atterrir là-dedans.
C'est quoi le plus beau, le moment le plus heureux de la création? Thierry Frémaux vous a posé la question hier, vous avez répondu le tournage. Mais est-ce que c'est pas aussi quand vous faites un dessin que vous créez un personnage? Est-ce que c'est pas ça le plus beau?
Oui, mais quand je fais ça, c'est très solitaire. C'est vraiment un gribouillage. C'est très important de mon processus. De ma thérapie créative, si vous voulez. Et de ce petit dessin, il deviendra peut-être quelque chose de plus grand après. Mais faire du cinéma, c'est l'énergie partagée avec des gens, avec les gens qui vous entourent. C'est ça qui vous donne le pouvoir, l'énergie surtout.
Thierry Frémaux, c'est fou comme le cinéma de Burton fonctionne bien chez nous en France, et surtout auprès des adolescents à Lyon aussi.
Ah oui, nous, on a été frappés hier par la ferveur que, depuis son arrivée, il déclenche partout où il passe, qui n'est pas une ferveur artificielle, un truc de notoriété, de réseaux sociaux. C'est l'idée que les gens ont envie de remercier les artistes, de leur dire ce qu'ils ont apporté. Et en effet, sur un public, pas seulement de dire public jeune, public vieux, mais tous les publics. C'est-à-dire, parce que le public jeune aujourd'hui qui adule le cinéma de Tim Burton n'était pas né quand, ou en tout cas était enfant, bambin, quand ses premiers films sont sortis. Donc ça veut dire que son cinéma traverse notre histoire contemporaine de manière incroyablement forte.
Et ce soir, ils seront 5000 fans pour une nuit entière à la Halle Tony Garnier. On peut imaginer que le spectacle sera aussi dans la salle.
Oui, oui, alors c'est la nuit traditionnelle à la Tony Garnier, donc c'est une nuit Tim Burton qui est déjà pleine, et sans vouloir créer une rumeur, mais a priori, you promise that we go there tonight.
Lots of coffee.
Est-ce que tu vas distribuer du café?
mais oui, oui, c'est ça aussi, on retrouve un homme, si j'ose dire, physiquement intact, physiquement et mentalement intact, il ne vieillit pas, il est une sorte d'artiste permanent, et c'est aussi pour ça qu'il touche tous les publics. Et alors sur les gribouillages, il n'arrêtait pas au restaurant de dessiner sur des menus, puis quand il avait fini de remplir le menu, hop, il prenait un autre menu vierge et il recommençait. Et on dit, dans 20 ans, ça vaudra 500 000 euros. Parce que c'est chaque fois une esthétiquement formidable.
Thierry Frémaux dit, il ne vieillit pas. Mais c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes resté un adolescent. Est-ce que vous avez conscience aussi d'embellir les adolescents, leur univers, de les comprendre, en fait? Vos films comprennent cette époque très bizarre de la vie qui est l'adolescence.
Well, it's a good point because yes, I do feel that way.
C'est intéressant parce que oui, je partage ça. J'ai le sentiment de ça. Quand j'étais jeune, je me sentais terriblement vieux. Et aujourd'hui, j'ai l'impression d'avoir 13 ans. Donc il y a cette balance, ce retour des choses, ce retour de la pyramide des âges. Plus on vieillit, plus on revient quelque part mentalement à la jeunesse. Donc oui, mon âge, aujourd'hui, c'est 13 ans et demi.
Mais, et vous n'avez jamais peur de perdre cette candeur et cet esprit de l'adolescence?
Not really. I mean,
pas vraiment.
A while back, I felt like
il y a quelques temps,
je me disais que
je n'évoluais pas dans le bon sens. Et là, je me suis rendu compte que, en fait, non, c'était pas vrai.
Que
quand on prend Matisse, par exemple, des grands artistes, ils passent leur vie à essayer de retrouver quelque chose de simple, quelque chose de nouveau, que vous avez vu quand vous étiez jeune, de voir des choses d'une façon différente, comme quand vous étiez jeune. Et c'est ça qu'il faut garder, c'est ce chemin-là qu'il faut garder, de voir les choses de la vie et de les interpréter, comme dans la jeunesse. Et c'est ce qui m'est arrivé hier soir. Ça ne m'était jamais arrivé, ce contact avec le public hier soir. C'était tellement beau.
Bertrand Tavernier disait, il n'y a pas de vieux films, il y a des films. Et Lumière consacre ça. Est-ce que un festival comme ça, ça vous rend optimiste sur l'avenir du cinéma sur grand écran?
Absolument.
Thierry avait dit ça. Il y a beaucoup de festivals, mais celui-là, il parle du cinéma. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas ce genre de choses-là. C'est quelque chose.
This is my first time in the city, but
c'est ma première fois ici en ville. Mais on sent ce sentiment qui parcourt la ville. Il y a toute une histoire du cinéma ici. Et ça, c'est enthousiasmant. Regardez, j'ai la chair de poule. C'est fantastique.
Est-ce que vous possédez physiquement vos films? Est-ce que vous les gardez avec vous?
Non.
J'en ai des copies, mais je n'y retourne pas, je ne vais pas les revoir. Si ça passe à la télé, bon, je jette un œil, mais pour moi, les films, c'est comme une capsule.
Si jamais je les
regarde, je vais commencer à halluciner sur le moment où je les ai tournés, sur l'époque. Et je me dis, ah, ça c'était super, oh là là, ça c'est vraiment nul. Donc ça me surprend toujours, mais ça me dépasse. Mais même si je les ai beaucoup aimé les faire, je ne les regarde pas de nouveau.
Thierry Frémaux, ça a été dit à la masterclass hier et à chez Burton, l'idée, au-delà des images, d'inverser les valeurs et de détruire les préjugés. C'est ça le cinéma de Burton aussi.
Oui, je crois que c'est pour ça qu'il est aimé et qu'il est populaire, parce qu'il aime non seulement l'humanité, mais la partie de l'humanité dont qu'on ne considère pas et qu'on a longtemps pas considéré. C'est peut-être aussi pour ça que ces films se situent toujours à certaines époques, parce que il y a eu des époques où être un enfant différent était difficile. Et être un enfant différent, c'est aussi être un enfant. On a montré la bande-annonce de la série qui va d'abord, on l'a montré sur grand écran. Oui. On s'aperçoit que son art est absolument intact, parce qu'elle est très très impressionnante. Et de ce qu'on en sait, on n'en sait pas grand-chose, mais il y a une petite fille qui est en effet une enfant seule et qui a l'air de bien vouloir se venger de ceux qui mais je crois que ça vient de ça. L'amour que les gens lui portent, c'est parce que ils ont toujours senti, on sent qu'il porte lui un amour infini pour ses contemporains.
Et on apprend que vous avez travaillé pour Netflix, Tim Burton. Vous avez avec Mercredi. Vous aussi. Alors vous aussi.
Yeah, me and everybody else.
Oui, comme tous les autres. Non, non.
Again, it's not something I said I need to work with Netflix. No,
c'est pas que je veux travailler avec Netflix. Non.
I was intrigued by the character.
Le personnage m'intriguait terriblement. J'avais ce personnage de Mercredi qui m'intéressait. Elle me rappelait
how I felt in school,
de comment j'étais moi-même à l'école, par rapport à mes parents, les séances de thérapie, la société. Pour moi,
ça
aurait pu être moi, c'était un miroir.
J'ai rencontré une petite fille de 9 ans, Clémence, qui sortait de Frankenweenie et qui m'a dit « On a beaucoup aimé et on a beaucoup pleuré ». Et je lui ai dit « Si tu as Tim Burton en face de toi, qu'est-ce que tu lui dis ?» Et je vous jure que textuellement, elle m'a dit « Tim, ne prends jamais ta retraite ».
Est-ce que je peux avoir ce mot-là sur une lettre, comme ça je l'enverrai au studio?
Je vous rappelle que vous avez 14 ans et demi, donc vous avez de la marge par rapport à la retraite.
Oui, je suis un peu vieux pour elle, vous avez raison.
Mais derrière cette réflexion très mignonne, je trouve il y a quand même l'idée de la création, c'est un jus. Est-ce qu'il en reste encore beaucoup?
Oh, oui, absolument.
Any art, anything you do, you have to.
Pour tous les artistes, tout ce que on fait, c'est votre vie. Vous y mettez vraiment tout. Vous y mettez toute votre énergie. Vous avez besoin de l'étincelle. Autrement, vous mourrez. C'est très important.
Mais elle vient comment, l'étincelle?
De l'énergie, de la nervosité.
I wave my hands around a lot.
Je secoue mes mains tout le temps, vous avez vu.
I just think it's just a mental thing of
c'est un état mental.
Trying to see things.
On essaie de voir les choses.
It's like you're talking about characters. I try to look at characters.
J'essaie de voir les personnages
perspectives,
par de deux angles différents à chaque fois, de me mettre dans leurs chaussures, de me mettre à leur place.
It just keeps.
C'est quelque chose
your energy flowing, it keeps your creativity flowing.
Qui engage votre énergie, votre créativité. Et il faut, effectivement, ça vous fait marcher, ça vous fait fonctionner, ça vous fait vivre.
Et vous nous observez beaucoup aussi ou pas?
J'ai passé beaucoup de temps à regarder les gens par la fenêtre. J'ai toujours fait ça.
Shopping malls or restaurants.
Souvent, j'étais au restaurant, je me mettais à dessiner les gens autour de moi, oui. J'ai toujours aimé se faire ça.
Merci beaucoup, Tim Burton. 14e prix Lumière à Lyon. Merci. Merci à notre équipe, Laurent Thomas, Claire Destacant, Christophe Magère, Muriel Pérez. Au revoir, Lyon.